I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditorices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce spécial Kif Taras sur Twitch, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Alors comme vous le savez, si vous nous avez déjà écouté, on est dans Kif Taras, donc on parle de blancs, de noirs, d'arabes, d'asiatiques, de roms, de musulmans, de juifs, sans complexe. Et on le fait effectivement depuis 22 émissions maintenant. Et aujourd'hui, on a décidé...
Aujourd'hui, c'est un spécial, c'est vous les invités dans ce spécial Kif Taras, c'est vous, nos auditeurs, nos auditrices sur Twitch. Alors donc là, on est en direct sur Twitch, donc je vois vos commentaires qui s'affichent devant moi.
Alors moi je précise, je vois rien du tout en fait, parce que je suis complètement myope. Donc, grâce sera à mes yeux. Si vous me voyez plisser comme ça, c'est que je fais une tentative, mais honnêtement, je vois...
C'est qu'elle veut vous draguer. Donc, merci d'être là, toutes et tous. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Ouais. Ça fait trop plaisir. Il y a plein de bonjours là qui sont enchaînés. C'est trop cool. Merci d'être là. Et donc aujourd'hui, on va vous répondre. On va commencer par répondre à des questions qui nous sont parvenues tout au long de l'année. Déjà, on tient à présenter nos excuses aux personnes auxquelles on n'a pas répondu. Et à nos remerciements également, parce qu'on reçoit vos messages tout au long de l'année. C'est vraiment, ça nous fait vraiment plaisir.
On les lit tous.
Voilà, avec attention. Mais ouais, on ne répond pas toujours dans les temps. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de vous rencontrer aujourd'hui de manière virtuelle, mais en direct.
Et aussi, voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions ici sur l'écran qu'on peut voir. Salut, Fox 92 Rad. Et déjà, ouais, donc merci de nous écrire. Moi, je trouve que vous nous envoyez des super messages, généralement très longs. Donc, ça veut dire avec beaucoup de détails sur vos ressentis sur les émissions. Et un truc drôle, c'est que vous faites... nous, on a un petit rituel dans Kif Taras. Si vous nous écoutez, peut-être que vous le savez. C'est qu'on demande à nos invités de se situer sur le plan racial pour nous expliquer... pour nous dire d'où ils parlent, quelle est leur expérience. Et souvent, quand vous nous écrivez, vous faites ça. Vous nous dites, vous nous expliquez comment, voilà, vous décrivez, vous dites, voilà, mes parents sont de là, j'habite à tel endroit. Et mon expérience de découverte du fait que je n'étais pas blanche, c'est ça.
Ouais, c'est ce qu'on trouve, c'est qu'en fait vous avez vraiment pris ce pli-là de vous situer, ce qui nous permet de savoir d'où vous parlez et de un peu de comprendre votre expérience. Donc effectivement, comme le dit Grace, vous mettez beaucoup de vous-même dans vos messages, ce qui fait que c'est souvent assez long. C'est aussi ce qui fait qu'on vous répond pas, parce qu'on veut pas vous répondre en deux secondes avec deux lignes. On se dit, ah, on répondra plus tard, on va se poser, on va répondre longuement. Et puis finalement, on n'a pas forcément eu l'occasion de le faire. Mais c'est hyper touchant. On les lit, ça nous nourrit, ça nous permet aussi de réfléchir à d'autres sujets, de compléter aussi quand il y a des incompréhensions. Donc c'est vraiment vraiment chouette. C'est hyper riche.
Et aussi, je trouve que quand quelqu'un se situe, personnellement, ça donne déjà beaucoup de choses sur... Enfin, ça en dit plus sur comment la personne est. Ça plante vraiment le décor et il y a des personnes qui se définissent depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucun problème à se dire, voilà, je suis noire, je suis asiatique, j'ai telle culture, etc. Et d'autres pour qui c'est plus difficile parce que c'est quelque chose qui ne leur est pas naturel, mais tout le monde... est d'accord finalement sur le fait que c'est incontournable parce que nos sociétés sont traversées par ces questions raciales et que du coup on peut pas y échapper lorsqu'on est une personne racisée, et même de plus en plus quand on est blanc aujourd'hui. Mm-hmm. On se rend compte de ça puisqu'on en parle beaucoup, on parle beaucoup de fait d'être blanc, de la blanchité, etc. et que c'est quelque chose qui s'impose à nous, et que voilà, le fait d'en parler, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir cette discussion aujourd'hui.
Voilà, merci beaucoup. On voit que les questions arrivent. Alors moi, voilà, je vois que des lignes floues. Donc,
Alors, il y a une question. Alors, c'est un thème qu'on n'a pas abordé cette saison et qu'on va aborder dès la saison prochaine, qui est l'appropriation culturelle. Donc, c'est quelque chose de très complexe et de très mouvant, je trouve. Et on a eu beaucoup de questions là-dessus sur les mails, sur les courriels, sur les réseaux sociaux. On va l'aborder la saison prochaine. Et là, il y a Azula 35235 qui dit « Bonjour, j'ai une question très importante. Si je suis blanc et que je porte un t-shirt en wax, est-ce de l'appropriation culturelle ?»
Alors, pour commencer, on n'est pas la fashion police. Donc, vous êtes libre de vous habiller comme bon vous semble. Nous, ce qu'on dit, c'est que ce qui nous semble important dans la question de l'appropriation culturelle, c'est surtout la captation économique du travail de communautés minoritaires. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des communautés qui, pendant longtemps, si on parle du wax, par exemple, ou de manière générale des tissus africains, pendant très, très longtemps, en fait, on a vu notamment des femmes immigrées africaines porter ce genre de tissus et, en fait, le porter en étant stigmatisées. Et dès lors que ces tissus en fait, ont été valorisés par des industries de la mode, etc., soit le crédit n'était pas donné aux auteurs, aux autrices de ces créations, en fait. Et puis en plus, là, bah, finalement, le bénéfice économique ne revenait qu'aux personnes qui tout d'un coup donnaient une espèce de crédit fashion à des pratiques culturelles qui existaient de longue date. Donc c'est plus cette question-là qu'on interroge. Ou une autre question, c'est, vous allez nous demander si, par exemple, vous avez le droit de vous coiffer de telle ou telle manière, si vous avez des cheveux raides. Des coiffures qui notamment sont réservées aux cheveux crépus. Moi, par exemple, si on a un exemple à donner, c'est celui de Kim Kardashian. C'est que quand elle a commencé à se faire des tresses collées, elle fait ce qu'elle veut, mais le fait qu'elle les rebaptise de son nom, alors que ce sont des pratiques culturelles qui existent quand même depuis très très longtemps, notamment sur le continent africain, tout d'un coup, elle a commencé à faire des tutos sur YouTube, à gagner de l'argent sur des coiffures qui, en tant que personne d'origine africaine, et je pense que c'est le cas de plein de gens, on s'est tous fait vanner parce qu'on avait des tresses équivalentes collées sur la tête quand on était petit. Donc c'est aussi ça, ce truc-là de donner le crédit aux personnes qui sont à l'origine de ces créations. Mais c'est un vaste sujet sur lequel on pourra, je pense, s'étendre davantage.
Donc Kim Kardashian, elle fait pas que ça avec les coiffures afro, hein. Elle fait ça aussi avec le kimono. Donc les populations, les cultures noires sont pas les seules qui sont ciblées. Tout ce qui marche, en fait.
Ouais, exactement.
Elle prend. Et donc elle a monté un business récemment de lingerie, en fait, de trucs près du corps, quoi.
Ouais,
enfin, c'est de la lingerie,
ouais.
Qu'elle a nommé kimono, ouais. Alors que ça n'a rien à voir avec le kimono, et que deux
C'est une appellation qui est désignée.
Oui. Et qu'elle a essayé de breveter, de déposer comme une marque,
le mot kimono,
alors que c'est quand même quelque chose qui résonne très fortement dans les communautés japonaises, comme quelque chose de très traditionnel, qui est porteur de beaucoup, beaucoup de symboles. Et donc, on ne peut pas juste s'approprier, là, du coup, économiquement, vraiment commercialement, une marque, en tant que marque, quelque chose qui existe depuis des milliers d'années et qui fonctionne ailleurs. Donc,
C'est patrimoine de gens, et en fait, c'est un peu les pillés d'une certaine manière, quoi.
Et donc, pour vous répondre, donc moi, je m'interdis pas de porter du wax parce que je suis pas noire.
Alors, moi, par contre, grâce. Est-ce que tu veux qu'on en parle?
Non,
je rigole.
Mais en plus, le wax,
juste pour la petite histoire, c'est un tissu colonial. Ouais. Donc, c'est un tissu qui est inspiré. C'est un tissu qui a été créé par les colons hollandais, qui était inspiré justement des pratiques de fabrication de tissus javanais en Indonésie. Et donc, c'est devenu un tissu africain par sa pratique majoritaire. C'est comme, en fait, si on veut parler de. Enfin, c'est comme certains plats qui viennent, en fait, de différents voyages, de différents ingrédients. Eh bien, c'est devenu un tissu africain par destination, mais à l'origine, c'est un tissu qui est fabriqué en Hollande.
Et si je m'achète quelque chose en wax, je vais quand même me poser la question, et je pense que là c'est important.
Elle va me payer.
Qui va l'argent? Qui va
me payer?
Est-ce que ça va à quelqu'un dont c'est l'héritage, qui donc le fait avec. C'est une ressource qui est importante. Donc est-ce que ça retourne, ça va aux personnes dont c'est l'héritage? Je me pose cette question-là. Si c'est pour acheter un truc où je sais que ça va aller dans un fonds de pension américain, je vais peut-être pas l'acheter à cet endroit-là.
Et puis, il y a plein d'autres tissus africains en plus. Donc,
oui.
La question. Mais on fera un vrai sujet un sujet plus long où on pourra vraiment explorer plein d'aspects de l'appropriation culturelle, parce que c'est un débat qui se fait de plus en plus. Et puis après, l'autre question, c'est aussi les créateurs qui vont mettre en avant des cultures minoritaires, amérindiennes, etc., et qui vont faire défiler sur leur podium uniquement des mannequins blancs.
Ah oui.
Donc là, on est dans un truc où on se dit, faut pas déconner, quoi.
Représentation.
Voilà.
Alors, il y a d'autres questions. Poser. Alors, pensez-vous. Non, là, c'est parti.
J'ai vu prise en charge psychologique, ouais. Mais après, c'est parti.
La prise en charge psychologique. Donc,
des questions liées au racisme.
Ouais. La question de déjà des effets du racisme sur notre psychisme,
ouais.
Donc notre bien-être psychique. Donc ça, c'est évidemment très important, puisque je pense que...
Bah c'est capital, ouais. Ouais.
L'un des premiers effets que ça a, c'est que ça nous... D'ailleurs, c'est le but du racisme. Hein. Le racisme, c'est fait pour nous maintenir dans des situations où on ne se sent pas bien, donc on peut pas aller au maximum de notre potentiel en tant que personne humaine. On peut pas travailler comme on veut, on peut pas s'habiller comme on veut, on peut pas vivre comme on veut. C'est ça, le but du racisme. Donc forcément, le but est atteint quand on est affecté par ça. Et il faut combattre aussi ces effets-là.
Mais c'est une super idée, en fait, de faire intervenir peut-être une personne qui soit psychologue et qui puisse nous parler des conséquences psychologiques. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on demande aux gens de se positionner sur le plan racial, c'est pour dire aussi de quelle manière, en fait, la question raciale a pu affecter leur vie. Parce qu'en fait, la manière dont on aborde le monde et dont le monde nous appréhende, en fait, est complètement forgée par ce qu'on renvoie et la manière dont, à quel groupe on appartient, etc. Et forcément, ça affecte notre psychologie, parce que ça veut dire qu'il y a plein de situations qu'on anticipe, qui sont des situations de racisme, un regard, des choses qu'on appréhende, les entretiens d'embauche, les recherches d'appartements, etc. Et forcément, ça conditionne la manière dont on se positionne dans le monde. Et ça peut effectivement, quand on subit une série de déconvenues, nous affecter. Donc ça veut dire comment on est pris en charge et puis comment les psys aussi sont capables de parler et de comprendre ces questions-là. Parce qu'en fait, moi, j'ai un problème qui revient beaucoup dans mon entourage. En fait, souvent, les gens, quand ils cherchent des psys, ils ont peur d'avoir des psys qui comprennent rien au racisme. C'est-à-dire que des gens qui sont pas du tout, soit parce qu'ils sont pas, en fait, qui ont l'impression soit qu'ils sont parano, parce qu'ils sont pas capables d'identifier en fait les raisons de leur détresse. Donc cette question-là d'avoir des psys qui sont eux-mêmes, en tout cas qui comprennent le racisme, soit parce qu'ils l'ont vécu, soit parce qu'ils ont été sensibilisés, c'est une véritable question. Et ça, je pense que ça vaudrait le coup vraiment de faire venir quelqu'un pour en parler.
Oui. Et donc il y a des personnes de mon entourage, moi, qui choisissent de se confier, enfin d'être traitées par des personnes racisées, donc de faire appel à des personnes du corps médical, hein, de manière générale, pas seulement des psys, mais aussi des docteurs. Des personnes racisées pour que cette question-là soit évacuée. Bon, c'est pas forcément le cas. C'est pas parce qu'une personne est racisée que forcément elle est tout à fait au point sur ce point-là. Mais je pense que ça peut être une manière d'aborder ce problème-là.
Et ça se pose dans d'autres domaines. Moi, enfin, à titre perso, ma dermato, elle est noire. Enfin, tu vois, c'est des trucs bêtes, mais parce qu'en fait, les gens pensent pas toujours qu'il y a certains produits qui peuvent te créer des taches sur la peau parce que juste, en fait, t'as pas. Voilà. Donc, je préfère quand même être avec quelqu'un qui peut connaître, envisager les conséquences que peuvent avoir l'administration de certains médicaments, tu vois. Donc ça va très vite, en fait. On a vu des questions, je ne sais pas comment on peut revenir en arrière, mais... Alors, désolé, c'est pas super joyeux comme question, mais on a fait chaque début d'émission, vous demandez comment situer le milieu de la race, et pour moi, c'est très douloureux. Ah, d'accord, précédente. Et c'était quoi la question au-dessus?
C'est la question de se situer.
D'accord, ok, ça marche. D'accord, c'est pas une question, juste un remerciement à Rokhaya pour être, je pense, c'est bizarre de dire ça.
Ouais. La seule personne non mahoraise que j'ai vue de ma vie à parler des problèmes de Mayotte dans les médias, quand le gouvernement nous traite comme des citoyens de seconde zone depuis des décennies. Cœur.
Merci de le rappeler, c'est important. Je pense qu'on va, ça rappelle. Bon, Mayotte, c'est le plus jeune département français, donc une ancienne colonie. Je pense que ça sera important de parler justement de la France non hexagonale. Je pense que ça va être justement parce que la France est quand même le seul pays au monde qui soit présent sur 5 continents. Et à mon avis, parler de cette conception de la République éclatée sur justement ces 5 continents, ça peut valoir le coup. Et Mayotte, c'est vraiment un territoire qu'on connaît très très peu, qui fait face à énormément de xénophobie contre des Comoriens, beaucoup de problèmes de sans-papiers aussi. Donc merci de ce rappel. Et je pense que c'est un sujet qu'on pourra aborder la saison prochaine.
Alors, que pensez-vous d'une mise en place de statistiques ethniques? J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui obligerait à ne plus ignorer les questions raciales et leur impact. C'est une question de OHB underscore 78. Écoute, moi je pense personnellement qu'il faut des mesures concrètes pour faire face au racisme. Et donc j'ai déjà lu quelque part, je ne veux pas trouver la personne qui a dit ça, mais ce qu'on ne compte pas finit par ne plus compter. C'est-à-dire qu'il faut compter les choses pour pouvoir prendre des mesures, pour pouvoir déjà savoir l'ampleur du phénomène et ensuite pour pouvoir y mettre, enfin, agir dessus. Donc, les statistiques techniques, est-ce que c'est quelque chose qui peut aider ? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est une mesure qui peut déjà nous permettre de compter, voir où sont les problèmes et ensuite de savoir si les politiques marchent. Alors, je ne dis pas que c'est la seule mesure qui peut être prise, mais on ne l'a jamais fait et le problème ne s'amoindrit pas. Donc, est-ce qu'on peut penser à essayer des mesures qu'on n'a pas essayées en France ?
Oh, moi, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai qu'en France, on a une histoire particulière avec le fait de compter des gens en raison de leurs origines. Donc, c'est vrai qu'il y a un gros traumatisme qui est lié à la Seconde Guerre mondiale et au fait que la dernière fois que les personnes ont été référencées par rapport à notamment une appartenance religieuse supposée, ben, c'était dans un but vraiment d'oppression, d'extermination, etc. Donc, c'est vrai que les gens ont un gros malaise par rapport au fait que le gouvernement puisse avoir ce genre de données. Mais honnêtement... Moi, je pense que sans ça, on peut pas vraiment lutter contre le racisme si on n'a pas de données objectives sur les groupes minoritaires et la manière dont ils vivent, quoi.
Alors, il y a une question de T on me. Est-ce que vous comptez faire un épisode sur le métissage ? Je suis moi-même métisse et j'ai l'impression d'avoir eu le cul entre deux chaises, pas assez blanche, pas assez basanée, en échangeant avec d'autres métisses, peu importe quel métissage. J'ai vu que nos vécus étaient similaires et nos identités parfois difficiles. Alors, on a fait un épisode sur le métissage avec notre amie Samira Ibrahim.
Oui, tout à fait.
Qui s'appelle Noir et Arabe. Donc, c'est eu un métissage. Il y a énormément de manière d'être métissée. Hein. Mais moi, je trouve que la manière dont elle a parlé du fait d'être noire et d'appartenir d'avoir être issue du monde arabe, c'était quelque chose de très intéressant puisque il y a des stéréotypes dans les deux, dans toutes ces cultures-là, les unes contre les autres. Et c'était très intéressant. Donc, je pense que le métissage, c'est très difficile d'apporter une réponse globale à des parcours très individuels. D'ailleurs, dans une même fratrie, souvent, il y a des enfants qui ne vivent pas la même manière leur héritage. Mais oui, enfin, moi, c'est un truc qui m'intéresse aussi d'une manière générale. Je pense qu'on pourra faire d'autres épisodes sur comment, surtout par rapport aux enfants, comment élever un enfant qui est de deux cultures. Et d'ailleurs, je voudrais dire par rapport à cette question d'avoir le cul entre deux chaises, je trouve qu'on dit souvent que d'avoir plusieurs cultures, c'est d'avoir le cul entre deux chaises. Et je ne sais pas si c'est une bonne manière d'aborder la chose. Je trouve que déjà, on voit d'abord les différences avant de voir les ressemblances. Et je trouve que dans les cultures, il y a énormément de choses qui se ressemblent. Mm-hmm. Et c'est vraiment quelque chose qu'on nous pose quand on est issu de plusieurs cultures. Est-ce que tu es plutôt chinoise, ou t'es plutôt française, ou t'es plutôt cambodgienne. Et en fait, déjà, quand on pose la question, il y a un problème. C'est-à-dire que si on vous pose la question en vous disant est-ce que vous vous sentez plus ça ou ça ? Alors qu'au contraire, c'est qu'est-ce que dans toutes ces cultures fait que tu te sens qui tu es, qui t'aide. Il y a énormément de ressemblances dans toutes nos cultures, hein, parce que c'est parce que nous sommes tous humains. Et que nos cultures reflètent donc le fait que nous sommes tous humains. Donc il y a des questions qui sont tout à fait convergentes. Et on parle très rarement de ces questions-là. Et on parle tout de suite des choses de comment tu fais pour faire le grand écart. Alors qu'en fait, des fois, il n'y a pas d'écart, en fait, tout simplement.
Moi, ce que je trouve aussi intéressant dans le métissage, c'est vraiment la manière dont on idéalise le métissage. Tu vois, les gens qui disent « Ah ouais, non mais quand tout le monde sera métis, ce sera la fin du racisme. » Alors qu'en vérité, les sociétés les plus métissées, c'est les sociétés esclavagistes, quoi. Donc ça montre bien que c'est pas du tout le mélange, c'est pas forcément une recette vers le mieux. Donc je pense qu'aussi cette mythologie du métissage qui serait forcément un bien, ça serait intéressant de la déconstruire avec des personnes qui sont concernées, qui pourraient nous raconter que peut-être c'est pas forcément si évident, même si évidemment ça peut être un bon signe qu'il y ait une mixité dans les unions, mais voilà quoi.
Et je trouve ça d'ailleurs assez difficile quand on est soi-même racisé, qu'on est soi-même victime de racisme et qu'on a internalisé le racisme.
Ouais.
C'est pas parce qu'on est racisé qu'on est pas raciste, en fait. On peut avoir intériorisé ces choses-là et du coup, c'est très douloureux, finalement, de le vivre. Hello, je me pose beaucoup de questions sur mon héritage racial. C'est une question de pitbull anti-mascu, car j'ai un passing aléatoire.
Bravo, bravo.
Alors que j'ai mon grand-père qui est malgache, il a épousé une blanche, et mon père métis a épousé une blanche. J'ai la peau un peu mate et des yeux bridés, mais parfois on me prend pour une blanche. J'ai été élevée dans une famille raciste et je n'ai pas connu ma famille malgache, mais je ressens le besoin de me rapprocher de cette culture et je ne sais pas du tout comment faire.
Ça, c'est une vraie question. Alors, moi, en tout cas, je ne suis pas en mesure de t'aider concrètement, mais c'est vrai que cette manière dont, en fait, on peut être catégorisé en dépit d'un héritage culturel qui est réel, c'est super intéressant. Ça montre bien que les groupes raciaux sont des constructions, parce qu'en fait, même en ayant un contexte culturel majoritairement blanc, si ce n'est exclusivement blanc, finalement, on peut avoir un besoin de se raccrocher à un groupe qui nous ressemble dans son expérience, parce qu'on sent que, d'une certaine manière, la société nous renvoie ce groupe qui, même s'il est lointain, a un sens pour nous. Donc je pense qu'il y a des organisations, j'imagine, d'associations de personnes d'origine malgache qui doivent être structurées parfois autour d'événements culturels, d'événements historiques. À mon avis, ça doit exister, je pense.
Alors ouais. Moi, je te suggérerais peut-être, si ça t'intéresse, d'aussi faire une recherche sur des auteurs malgaches qui ont écrit en français ou qui ont été traduits peut-être. Parce que je trouve que lire, c'est aussi une manière de pouvoir de dire des auteurs qui peut-être on traite cette question-là ou même qui ne traitent pas de ça, mais que du coup, il y a ce thème de la différence et des relations avec les autres races sociologiques. Je pense que c'est important et donc tu peux commencer par là. C'est vrai que moi, je ne connais pas du tout d'auteurs malgaches. Et je voudrais dire aussi que... par rapport à l'expression les yeux bridés, je le dis pas par rapport à toi, mais par rapport à tout le monde. Moi, j'ai un vrai problème avec ce terme bridé, parce que je trouve que le mot bridé, c'est un mot qui a été créé pour désigner la forme des yeux en amande, enfin des yeux. Bon, déjà, tout le monde a des yeux allongés. Hein, je connais personne qui a des yeux ronds. Je pense que toi, tu as des yeux.
Moi, je suis pas le meilleur exemple parce que j'ai pas les yeux les plus ronds.
Mais en tout cas, oui. Je trouve que en fait, on parle de bridé pour les personnes asiatiques. Ouais. Alors que Rokhaya, tu vois, elle a des yeux en amande et on dit pas qu'elle est bridée. Et en
plus, je suis déjà noire, ça va. Quoi.
Le mot bridé, c'est quelque chose qui n'est, c'est négatif, pas une forme géométrique. C'est-à-dire que quand tu fais de la géométrie en troisième, on ne parle pas de la forme bridée. C'est pas une forme. Et donc le bridage, c'est quelque chose de très négatif. Il y a une connotation de limitation. Et moi, j'aime pas en fait qu'on utilise ce mot-là pour les yeux des personnes asiatiques d'une manière générale et même, enfin, je veux dire. Personnes qui vivent dans d'autres pays qui ont les yeux de cette forme-là plus étirés que d'autres. Et je trouve que c'est un mot qu'on devrait utiliser de moins en moins pour désigner ça. Et en plus, il y a des gens qui sont obligés de questionner la forme de mes yeux. C'est-à-dire de se dire « Ah, mais ils sont plus petits, ils sont plus longs, ils sont plus comme ça. » Alors que, enfin, tu vois, c'est juste ridicule. Une question. ça ne définit pas les gens. Donc,
Donc tu vois comme nous.
Je vois exactement comme toi, peut-être mieux que toi en fait.
Heureusement pour toi.
Ouais. Alors, il y a une question de Oryx Da. Que pensez-vous de l'histoire de France, du révisionnisme palpable, l'absence de communauté et des personnes racisées qu'elles peuvent orienter sur une autre histoire de France intégrant toutes les communautés?
Donc en fait, la question, c'est comment on nous raconte l'histoire de France, je pense. Ouais.
C'est une vaste question. Hein,
c'est une vaste question. C'est une question qui commence par les manuels scolaires, quoi, les choix qui sont faits. Je pense que moi, j'ai l'impression quand même que dans l'enseignement de l'histoire, on met beaucoup de temps. Enfin, on met beaucoup l'accent sur la décolonisation, mais que la présence coloniale n'est pas vraiment détaillée, quoi. C'est qu'on sait très bien comment la France est partie des différentes colonies, d'Indochine, d'Algérie, comment le pacte qui s'est noué entre les pays d'Afrique subsaharienne. On sait déjà moins les Comores dans les années 70. Je trouve qu'on n'en parle pas trop. La départementalisation des Outre-mer, c'est un peu flou, etc. Mais je trouve que l'arrivée des colons, ça, c'est un grand flou.
Ah bah, de toute façon, moi, je me rappelle quand ma fille était en CE2 ou en CE1, quand elle est revenue avec son cours de photocopier de La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, déjà, on a eu un grand moment de discussion avec ma fille et je lui dis, tu vois, ce mot découverte, c'est un vrai problème. Mais je ne l'aurais pas ressenti comme ça si je n'avais pas déjà vu Lilian Thuram en parler, si je n'avais pas vu énormément de vidéos et de personnes amérindiennes qui avaient dénoncé cette vision de l'histoire. C'est-à-dire que c'est sûr que si tu penses que Christophe Colomb a découvert l'Amérique de la même manière qu'on découvre un trésor caché sur une île déserte, c'est un vrai problème. Et donc ce récit national et international d'ailleurs, hein, celui-là, mais enfin, en tout cas il y a une question, l'histoire, géographie de l'éducation nationale qui est validée par nos gouvernements successifs, il y a un agenda politique, c'est-à-dire que les gens on enseigne quelque chose à nos enfants pour façonner le monde de demain. Donc il faut questionner ça, nous, en tant que parents, et de, enfin, moi, là je parle par l'éducation nationale, mais aussi tout au long de notre vie ensuite, puisque on a tous été servis avec cette soupe de la découverte de Christophe Colomb en 1492. Je pense que maintenant c'est à nous de faire ce travail-là et de soutenir les personnes qui font aussi ce travail-là au niveau, à tous les niveaux. Hein.
Oui, c'est ça, et puis vraiment une conception du monde un peu plus complexe, parce que c'est ce que disait, tu citais Lilian Thuram, mais lui il disait que la première fois qu'il a vu des Noirs dans son cours d'histoire, c'était dans le cadre de l'esclavage, quoi. Et en fait on a l'impression que ce soit le continent africain ou les personnes noires qui n'avaient pas d'existence en fait avant de rencontrer les blancs, alors qu'il y avait une Afrique précoloniale, impériale, enfin il y a toute une histoire comme ça qui est pas forcément tout simplement enseignée, quoi. Puis après moi ce que je trouve qui manque, et peut-être dont on devrait parler, on n'a pas forcément eu le temps de l'évoquer en tant que tel, mais c'est vraiment l'esclavage français. Je trouve que vraiment l'imaginaire qu'on a autour de l'esclavage, c'est un imaginaire hyper américain. Tu vois, on connaît Autant n'importe le vent, enfin Amistad, vraiment les trucs américains, mais nos références, enfin tu vois, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, on n'a pas trop d'images en tête de comment
c'est
c'était,
vraiment,
quoi.
Je suis incapable de dire
c'est pas du tout dans notre imaginaire collectif.
Ah, hyper important. Très bonne idée de thème pour la saison 2. Il y a une question de Azula 35235. Que pensez-vous du hashtag Panopérette?
Ah bah super cool. Ouais. c'est un hashtag qui a surgi lorsque le site comment s'appelle ce site
X Hamster.
Ouais c'est ça, voilà, a fait les stats des recherches clés qui ont été donc c'est un site
pornographique.
Voilà, les recherches clés qui ont eu le plus de hits le jour de
14 juillet.
Voilà, le 14 juillet.
Alors, que faisons-nous le 14 juillet?
Que font les Français le 14 juillet? Et bah, apparemment ils cherchent des vidéos porno avec ce qu'ils appellent des beurettes. Donc les beurettes c'était top hit. Moi, j'avoue que je suis encore interloquée. Le dernier truc, c'était quand même Japanese Mom.
Ah ouais, tu vois, Japanese Mom.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est hyper précis. Tu vois, genre maman japonaise, tu dis, mais il y a des gens quand même qui ont vraiment des catégories. Non, mais c'est hyper pointu quand même. Alors, tu vois.
Et avant ça, ils ont fait un recensement, ils ont fait un espèce de sondage auprès de leurs utilisateurs, je pense, masculins.
Ah oui.
Et sur la femme idéale. Et c'était une femme eurasienne, bisexuelle, trop féministe.
C'est ça, avec les yeux bleus et les cheveux longs.
Et elle s'appelait timide, elle s'appelait shy. c'était important parce que, bon.
Et du coup, voilà, suite à la révélation du fait que la première recherche, c'était beurette, il y a des filles d'origine nord-africaine qui ont décidé de faire le hashtag pas vos beurettes pour dire justement qu'elles n'étaient pas des objets de fétichisation, et ça a hyper bien marché, c'était hyper intéressant. Mais après, ce que je trouve intéressant aussi de souligner, c'est que tous les utilisateurs de sites porno ne sont pas tous des personnes blanches. Donc c'est important aussi de rappeler que parmi les gens qui recherchent, il y a sans doute des personnes, des hommes hétérosexuels blancs, mais il y a aussi peut-être des personnes d'origine maghrébine ou issues d'autres minorités, donc interroger aussi ce fantasme collectif, voilà.
C'est collectif, c'est-à-dire que, enfin, pour moi, la pornographie n'est pas isolée de notre monde. C'est-à-dire qu'au contraire, je pense que les gens derrière leur écran, et surtout pour une recherche pornographique, ils se sentent complètement dédouanés de toute morale et de tout politiquement correct, comme on dit, et que ce n'est pas quelque chose qui est isolé de nous, mais au contraire, boosté, quoi. Enfin, il y a du racisme dans la pornographie comme il y a du racisme dans notre société. Donc c'est pas le fait que de la pornographie. Hein.
D'ailleurs, on vous renvoie à l'épisode 3 de Kif Taras qu'on avait fait avec Faiz Hagen sur justement la fétichisation des corps non blancs.
Alors, il y a une question de Go Patatrac pour une émission autour de l'adoption d'enfants issus d'autres cultures. Alors, c'est une super question.
C'est une super question.
Super
dossier. Je pense que l'invité toute désignée, ce serait Amandine Gay. Elle est en train de préparer un documentaire et un livre sur la question de l'adoption transraciale. Je ne sais pas si c'est spécifiquement sur l'adoption transraciale ou sur l'adoption que va porter son livre, mais voilà, c'est une personne qui a été adoptée, qui est noire, qui a des parents blancs et qui a vraiment un regard très critique et très politique de la signification de l'adoption. Donc je pense qu'il y a vraiment effectivement un sujet sur
c'est très intéressant, notamment à la fois national et international, parce qu'il y a énormément de aussi, par exemple, si je parle des personnes asiatiques, il y a beaucoup de personnes asiatiques adoptées, par exemple, de Corée du Sud, mais pas que. Et donc j'en ai parlé avec Christelle Pécou, qui est l'une des qui est une illustratrice, qui est donc sud-coréenne d'origine et adoptée par une famille française de Marseille, blanche, bourgeoise. Elle en parle très bien et elle explique vraiment le travail se sortir du racisme dans lequel ils ont vécu, parfois très très bienveillant puisque ce sont leurs parents, et c'est super intéressant comme question. On aurait plein de choses à faire là-dessus.
C'est sûr.
Alors, que pensez-vous des quelques initiatives des spectacles de drag queen racisés qui revendiquent une identité raciale dorénavant. C'est une question de Supa Sayajins.
Bah, c'est top.
Ouais, c'est enfin, top.
Moi, je trouve ça canon. Je trouve ça, déjà, esthétiquement, c'est juste génial. Et de toutes les façons, je pense que le champ artistique, qui sont investis par les minorités pour se redéfinir, pour définir leur corps, pour les positionner, pour...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut, c'est Victoire Tuillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Finalement, d'une certaine manière, être à l'origine et en maîtrise de la représentation qui est fait d'eux, et plus encore quand il y a une forme d'intersectionnalité entre des personnes qui sont des drag queens et qui ne sont pas blanches, c'est canon. C'est bien parce que ça va contre le narratif et contre l'exotisation aussi.
Moi, je trouve ça vraiment super. Je voudrais faire un big up à Alia Express, qui est une personne que j'ai vue performer lors des Outdoors avec son équipe et qui avait repris plein de choses sur la fétichisation des corps asiatiques. Et j'ai trouvé ça génial que ces paroles-là se retrouvent ailleurs différemment. Donc super, merci Alia Express. Alors, c'est une question de Oryx Dar. Quelles sont les références historiques héros-héroïnes racisées ? Alors,
si c'est des personnes réalistes, alors, pour les personnes noires, je pense que le livre de référence, c'est un livre intéressant, c'est le livre de Lilian Thuram, Mes étoiles noires. Lui, il a décidé, en fait, de dire que, justement, la première rencontre qu'il a faite avec des noirs à l'école, c'était des esclaves. Donc, du coup, il a décidé de raconter ses héros. Et le livre s'appelle De Lucy à Barack Obama. Donc, il raconte à travers l'histoire des hommes et des femmes noires qui ont compté à ses yeux. Après, je pense que je trouve pas mal. Je trouve que dans les BD de... Pénélope Agieux dans Culotté.
Ouais.
Je trouve qu'elle a fait un vrai effort de représentation des femmes.
Tome 1 et 2.
Voilà, c'est ça. C'est des femmes à travers l'histoire, ont eu du culot, quoi, et ont brillé dans différents domaines. Ouais. Et je trouve qu'elle fait un vrai effort de représentation de femmes d'origine vraiment diverse, quoi.
Et ma fille le lit, enfin, elle a 10 ans, elle a 11 ans, donc je trouve que c'est quelque chose qui est accessible à beaucoup de gens. Ouais. Et je pense qu'il faut commencer tôt à ce qu'on voit autour de nous des personnes de toutes parts, de toutes les couleurs, etc. Alors, c'est une question de Tianmi. D'ailleurs, avez-vous des recommandations de lecture, podcast, film pour avoir une histoire racontée autrement, hors récit national, qui place les Blancs en sauveurs généreux ? Alors, des recommandations de lecture, podcast, film. Tu veux faire un peu des séries, toi ? Tu voulais dire un truc sur les séries ?
Alors, des trucs historiques ou des trucs contemporains ? Parce qu'en série...
Alors en série,
je pense que dernièrement, ce qui a très bien marché sur Netflix, c'est la série d'Ava DuVernay, la courte série When They See Us, qui reprend un fait divers des années 80, horrible, mais qui montre vraiment le caractère systémique du racisme. Qui avait secoué un peu New York à l'époque, comment en fait des jeunes garçons noirs se sont retrouvés accusés de manière injuste d'un crime qu'ils n'avaient pas commis, mais comment leur couleur de peau, enfin noir et latino d'ailleurs, a joué contre eux.
Donc ça, ils étaient coupables avant d'avoir été jugés.
Exactement.
Suite,
ils avaient la couleur de la culpabilité. Quoi. Et ça, c'est bien. Et sur Netflix aussi, je crois, j'aime bien. Enfin, c'est toujours dans la question du racisme systémique, mais là, c'est vraiment une fiction qui s'appelle Seven Seconds.
Oh, j'ai adoré.
C'est hyper bien.
C'était trop bien.
C'était trop bien.
J'ai adoré.
C'était vraiment canon. Ouais.
Et les personnages sont vraiment tous dépeints de manière. Déjà, pas cliché, c'est-à-dire que chacun d'entre eux, tu les prends et ils sont retournés.
Ouais.
Et en plus, l'histoire est incroyable.
Et c'est pas long, c'est pas une série infinie, donc c'est une série qu'on peut regarder assez facilement. Et après, quand même, des séries françaises. C'est un autre genre et c'est pas du tout. Mais je trouve que la dernière saison de Scam France. Je trouve que c'est la première fois que je vois dans une série française une série française qui est aussi réaliste dans la manière dont finalement on montre des Français de jeune génération. C'est la première fois, je pense, qu'une série française met personnage principal une jeune fille musulmane qui porte un hijab qui est une ado qui a ses questions d'ado, qui est amoureuse, qui partage entre les valeurs de sa famille, ses aspirations scolaires, personnelles et tout. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Déjà, la 3 était bien, qui était plus sur un personnage qui était homosexuel. Et je trouve que vraiment cette saison-là, elle est hyper juste dans cette manière de dépeindre des jeunes qui ont des origines différentes.
Et moi, je vous recommande d'aller voir le film de Frédéric Chaud. Enfin, c'est pas le film de Frédéric Chaud, mais il l'a co-écrit, qui s'appelle
Julien
Abraham,
Julien Abraham
qui réalise. Et alors, on m'a posé des questions sur Twitter, donc je vais peut-être répondre maintenant. Je soutiens ce film parce que c'est un comédien d'origine asiatique qui l'a co-écrit et qui est premier rôle en fait de ce film. Et c'est la première fois que ça arrive et c'est important. Je pense que c'est une pierre l'édifice pour nos générations futures. Ensuite, évidemment, c'est un film de comédie classique, donc il a tous les ressorts classiques de la comédie. Donc si vous n'aimez pas la comédie, c'est pas parce que vous allez voir ce film là que vous allez aimer, juste parce qu'il y a un asiat à l'affiche, mais en tout cas, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut soutenir. Enfin, moi je soutiens en tout cas parce que je voudrais voir plus de personnes qui font ce genre de démarche et c'est une question de sous. C'est à dire que les producteurs, ils ont dit oui à Frédéric Chaud et ils attendent de voir que ce soit un succès pour faire d'autres choses avec d'autres personnes. Donc moi personnellement, quand j'ai parlé avec mon éditrice de mon livre, j'ai publié un livre, j'ai parlé d'adaptation, et elle m'a dit il faut d'abord qu'on voit comment fait ce que fait le film de Frédéric Chaud. Donc c'est une porte
incroyable
pour d'autres personnes.
Non,
parce que c'est la même histoire,
ça n'a aucun rapport,
ça n'a rien à voir. Mais
non, mais c'est un truc de fou.
Il y a qu'une place, elle est pourvue, et si c'est un succès, ils ouvriront la porte à d'autres gens.
C'est
et là
effrayant.
C'est comme ça. Mais bon, moi je subis ça, et donc je me dis que c'est donc vive le film de Frédéric Chaud. Qui passe plein de sous,
Et après, il y a des documentaires qui sont pas mal. Je pense aux routes de l'esclavage qui était réalisé, qui est une longue série documentaire sur l'esclavage, sur le racisme, l'histoire du racisme anti-noir, qui a été réalisée par Fanny Glissant pour Arte, qui est vraiment bien. Vraiment bien. Mais après, il y a plein de choses.
Il y a plein de choses,
Il y a pas mal de bouquins, des bouquins dont on a parlé cette année, mais il y a plein de choses, de plus en plus de choses à lire, et qui vont paraître aussi l'an prochain.
Alors, il y a un témoignage de Kodafan Delori. Je suis d'origine arabe, vécu dans une famille d'accueil blanche qui a adopté un garçon noir. On a été élevés de façon égalitaire, donc j'avais zéro notion des soucis de racisme, tous les humains égaux, etc. Jusqu'à ce que j'y sois confrontée envers moi ou d'autres, et j'étais tombée de très haut. Je crois que j'ai pas fini de tomber quand je vois des témoignages, etc. Ça me touche énormément, ça me donne envie d'aider, même si avec mon white passing, j'ai pas subi beaucoup de racisme.
Bah merci pour ce témoignage. Enfin, je sais pas si on a vocation à répondre.
Je pense que c'est
c'est super intéressant.
Bah oui, évidemment, quand on découvre le racisme, et moi c'est ce que ça me fait quand je regarde des films par exemple sur les personnes noires aux États-Unis ou en France, et je me dis mais ils sont hyper, enfin c'est quand même d'une violence incroyable. Évidemment que j'ai pas subi ça et que j'ai subi d'autres choses, mais pas du tout de cet ordre là de cette ampleur là et ça me rend moi j'ai pas pu regarder en fait When They See Us.
Ouais, non, mais moi,
parce que ça me fait trop mal. En fait, je
c'est
me dis,
horrible,
mais c'est
en fait,
horrible.
Ouais.
Et c'était il y a 20 ans, ou enfin, je sais pas, il y a très peu de 30 ans.
Ouais.
Et je me dis, c'est encore le cas aujourd'hui. Ça n'a pas changé, en fait. Il faut se dire que ça n'a pas changé et que dans des quartiers, certains quartiers, ça existe encore. Et d'ailleurs, il y a des gens qui se battent pour ça.
D'ailleurs, il y a une marche pour Adama Traoré samedi à Beaumont-sur-Oise à 14h30. Donc, ça existe aussi en France. Alors, Adama Traoré, c'est toujours une affaire en cours, mais voilà, c'est un jeune homme qui est mort en 2016. Et je pense que c'est important de soutenir sa famille.
Il y a encore une question de Orexida. Nous fantasmons tous sur quelque chose, des types, des corps. Cela fait-il de nous des personnes bizarres ?
Je pense qu'en fait, déjà, quand on se place sur le terrain moral, je pense que déjà, on est à côté du sujet dans le sens où c'est pas parce qu'on a des préjugés, qu'ils soient sexistes, racistes, homophobes, que nous, en tant que personnes, en fait, on est moralement critiquables. La vraie question, c'est pas de se dire qu'on n'a pas de préjugés, parce qu'on a forcément des préjugés, puisqu'on vit dans un environnement qui nous imprègne quotidiennement ces préjugés-là. Mais pour moi, la question, c'est de savoir les questionner. Savoir se remettre en question. Et évidemment qu'on a forcément des fantasmes, mais nos fantasmes, ils sont nourris de sexisme. Par exemple, le nombre de filles qui préfèrent... Enfin, les filles hétérosexuelles qui préfèrent avoir un compagnon plus grand qu'elles, c'est pas des goûts individuels. En réalité, quand on voit la manière dont ça se reproduit, on voit bien que c'est une conception qu'on a du binôme femme-homme qui est liée à l'idée que l'homme est protecteur, etc., etc. Eh bien, je pense que évidemment, on a des préférences, mais elles sont alimentées par tout ce que la société associe à certains groupes raciaux. Donc, c'est pas grave de les avoir en soi, mais c'est important de savoir les questionner, de savoir se mettre, enfin, juste avoir un peu de distance. Après, ça veut pas dire que on va changer nos goûts juste pour être woke et se dire qu'on est politiquement complètement extrait du contexte dans lequel on vit, quoi.
Oui, et puis je trouve que l'exemple que tu as pris est très bon, c'est-à-dire que l'idée c'est pas d'interdire à toutes les femmes de sortir avec un homme plus grand. Juste parce que la virilité n'est pas représentée par la taille de l'homme, la taille physique, c'est pas du tout représentatif. Mais par contre, c'est de questionner pourquoi est-ce que les hommes plus grands auraient plus de succès auprès des femmes. Et qu'un homme qui serait plus petit en termes de taille, il aurait moins de hits sur Tinder ou etc. Donc l'idée c'est pas de, il y a pas d'interdiction, il y a pas de police des fantasmes. D'ailleurs ce serait pas nous qui ferions ça parce que
franchement,
comment pourrait, voilà. C'est pas du tout l'idée de dire on vous interdit de sortir avec des asiatiques ou avec des noirs si vous êtes pas asiatique, si vous êtes pas noir, si c'est pas du tout ça. L'idée,
ça entre
en fait.
Ça et le t-shirt en wax, non, ça mais... ferait quand même du boulot. Quoi.
Non mais c'est ça, on n'a pas le temps de faire ça. Mais l'idée, c'est de savoir pourquoi est-ce que si t'es attiré par des Asiatiques parce que tu penses qu'elles sont dociles, qu'elles sont douces, qu'elles ont un vagin serré, ça, c'est un vrai souci. Il faut déconstruire le fait de penser qu'elles sont douces, dociles, qu'elles ont des vagins serrés. Et après, si t'aimes les Asiatiques, tant mieux pour toi, en fait, tant mieux pour elles, si ça, tout se passe bien. Enfin, moi, j'ai aucun problème avec ça.
Et puis surtout, c'est la faculté de faire coïncider tes fantasmes avec la réalité. Ouais. C'est-à-dire que tu peux être attiré par un type de personne, mais si ce type de personne est minoritaire dans le contexte où tu vis, comment t'arrives tout le temps à faire en sorte que ça se produise? Ça, pour moi, c'est tu vois. Dire, si t'habites en Asie, que tu sors qu'avec des Asiatiques, bon, ok, c'est normal. C'est le nombre de filles majoritaires. Mais en France, c'est quand même, ça demande un effort, quoi. Non, mais tu vois.
Alors, il y a une question de Go Patatrac, Adoption Conseil. Il y a d'ailleurs une BD en 4 tomes sur l'adoption d'un enfant coréen.
Oui. Ah, super bien, ouais.
Sud-coréen, pardon, couleur de peau. Niel qui parle du sujet. Oui, c'est quatre tomes de Jung.
Elle est belge, non?
Oui, il est belge, ouais. C'est un homme. Il est d'origine. Il s'appelle Jung. Enfin, je sais pas, je prononce pas bien.
Très bien. C'est bon, hein.
Et qui parle aussi beaucoup des problèmes psychiques en fait des personnes adoptées, notamment dans son village d'où il venait de Belgique, et c'est vraiment quelque chose de ouais. Donc on recommande aussi cette BD de couleur de peau miel. Alors conseil série de Kodafan de Laurie. J'ai vu récemment le film Always Be My Baby.
Ah, c'était bien.
Always Be My Baby, pardon, sur Netflix, et c'était super drôle et émouvant. Ouais, Always Be My Baby, c'est un film avec Ali Wong et Randall Park. Alors, je sais plus la réalisatrice, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la même réal que Fresh Off the Boat sur ABC. Et moi, j'ai adoré parce que c'est un film dans lequel les personnes asiatiques ne sont pas le centre de l'action. Enfin, c'est-à-dire qu'elles sont au centre de l'action en tant que personnage, mais leur héritage n'est pas le sujet du film. Le film, c'est un film sur une personne deux personnes qui sont éloignées, une qui est partie loin pour réussir, elle revient dans son patelin, enfin bon, c'est quand même San Francisco.
Ouais.
Et du coup, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on se rabiboche? Comment on se pardonne, etc. Et je trouve que c'est un super film, très, très badin, sur un sujet hyper général qui est le grandir.
C'est l'amour de jeunesse. Ouais. Enfin, voilà, c'est ça, mais c'est hyper beau.
Et du coup, l'héritage, il vient, c'est un décor en fait, c'est un décor avec toutes ses subtilités, avec toutes ses nuances, et c'est vraiment un super film, donc je vous le recommande sur Netflix.
C'est drôle.
C'est hyper drôle, et ça questionne plein de choses de nos sociétés par rapport à la bouffe. Ils sont dans un resto, à un moment, il y a Keanu Reeves qui arrive, c'est tellement drôle.
Mais non, mais Keanu Reeves, juste mention spéciale dans ce film.
Alors, comment reconnaître les hommes qui fétichisent les femmes racisées? C'est une question de Good Vibes Only 2019.
Vous leur demandez des photos de leur ex.
Bah écoute, moi franchement, quand je rencontre quelqu'un...
Leurs ex, au pluriel.
Leurs ex, ouais. Je sens tout de suite déjà que je ne suis pas considérée comme une personne. C'est-à-dire que quand, quelqu'un qui me parle et qui me dit...
Nihao.
Bon, déjà, ça, c'est un vrai souci, parce que, voilà. Et ensuite qui me dit « Ah, mais tu sais, je connais très bien les gens comme toi, parce que ma copine d'avant, elle était asiate. » C'est-à-dire qu'on n'est pas toutes... Tu vois, c'est, encore une fois, on n'est pas toutes pareilles. C'est-à-dire que si t'as une copine asiatique avant, mais même si t'as une copine... Tu peux pas... Si t'as une copine avant, tu peux pas connaître toutes les femmes. On est bien d'accord. Donc, si t'as une copine asiatique avant, c'est pas nécessairement, du coup... Même si c'était ma sœur, en réalité, qu'on a vu le même parcours familial, etc., on est très différentes. Donc... On peut pas me connaître juste en ayant une copine avant. Donc ça déjà c'est comment reconnaître c'est ce que les gens te disent. Hein,
puis après ouais la manière dont la personne peut attacher de l'importance à ce qui est considéré comme étant ta culture. Va te parler, enfin moi, d'une langue.
J'adore les films de Jet Li.
C'est ça, voilà. Ou va te parler dans une langue au pif, africaine ou asiatique. Enfin, bon, c'est plus. Mais voilà, c'est. En fait, je sais pas, généralement, on se rend compte quand même à des détails, au fait de ne pas se sentir, valorisée en tant que personne, mais plus comme en tant que représentante. D'un groupe, d'une culture, voilà quoi. Enfin, mais après, c'est pas, y a pas de mode d'emploi. Hein.
Non, mais je pense que c'est un truc vraiment qu'on ressent. Je crois pas que ce soit quelque chose qui, enfin, y a pas de vraiment de. Après, moi, je connais des hommes qui sortent avec des personnes asiatiques.
Faire des listes.
Non, mais tu vois, enfin, et qui sont très bien. Enfin, je veux dire, et c'est pas parce qu'ils ont une copine asiatique avant que forcément c'est des hommes mauvais.
Oui. Oui, non, mais oui.
Tu vois, je sans vouloir, c'est quelque chose qui les. Encore une fois, c'est ce truc de entre le fantasme et la réalité, c'est-à-dire que tu peux aimer les femmes asiatiques parce que tu aimes la culture asiatique ou de manière générale, hein, parce qu'il y a Japon, Chine, etc. Donc tu peux aimer une culture en particulier, t'installer là-bas, avoir une copine qui pas pour autant être un fétichiste, tu vois. Enfin, c'est quelque chose d'assez parce que tu considères la personne comme une personne en part entière, qu'elle est unique et que vous avez une relation de humain à humain. Voilà, c'est tout à fait possible en même temps. Donc c'est ouais. Alors, allez-vous faire un kiff taras dans les territoires ultramarins, en Guyane, en Polynésie, voire à l'étranger ou dans les lieux symboliques? Oui, ce serait une très bonne idée.
On aimerait bien. On a des gens de binge en face.
Est-ce qu'il y a un budget pour aller dans les territoires
pour
ultramarins?
Dans les territoires ultramarins, on adorerait. Non, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses à faire dans les territoires ultramarins, de manière générale. Enfin, c'est en plus il y a des réalités locales hyper différentes, hein, que ce soit à La Réunion, en Guyane, en Guadeloupe. Enfin,
absolument.
Il y a plein de trucs à faire, quoi.
Et quand on avait notre invitée Françoise Vergès dans l'un des épisodes passés de la saison 1, on a parlé du féminisme au pluriel, des féminismes, et on a parlé aussi de La Réunion parce que moi, on m'a souvent dit « Ah, mais à La Réunion, c'est super là-bas, les gens, c'est le métissage, ils fêtent toutes les fêtes, c'est génial. » Et j'ai posé la question à Françoise parce que je voulais vraiment savoir si, de son point de vue, c'était aussi idyllique qu'on pouvait nous le dire. Et évidemment, elle nous a dit que c'était quelque chose, c'était un discours qui, aujourd'hui, est politique. C'est-à-dire, regardez comme ils s'en sortent, super, mais en fait, dans la réalité, et que ces personnes sont stigmatisées, qu'il y a énormément de ponts brisés entre ces communauté et que voilà, c'est pas juste le métissage qui met fin au racisme comme on disait tout à l'heure. Alors,
je lis pas parce que je vois rien. C'est pour les gens qui sont arrivés en cours, c'est pas parce que voilà, je refile le boulot à Grasse. C'est juste que je suis complètement myope, donc j'ai un champ de vision de 90 cm.
Alors il nous reste 10 minutes, donc si vous souhaitez poser des questions, c'est maintenant et on va essayer de répondre moins vite. Et oui, on revient pour une deuxième saison à partir du 5 septembre sur Binge Audio. Mmh. Le 5 septembre, il y aura une grande journée Binge où vous pourrez prendre connaissance de tous les super podcast qui existe chez Binge, et je le dis de manière sincère parce que j'écoute plein de podcasts de chez Binge. Et aussi, on retourne sur scène pour Binge en scène le 18 octobre à 18h. Donc, si vous avez manqué les premières éditions de Binge en scène, c'était
14 et 15 mai.
En mai, voilà. Au Palais des Glaces. Bah, n'hésitez pas à revenir, à venir nous voir le 18 octobre. Alors, il y a une question de Nono Darko. Est-ce que vous connaissez le podcast Le Moicast sur la culture antillaise?
Non.
Ah, mais moi, ça m'intéresse, je vais écouter.
Je connais pas
du tout. Merci pour l'info,
Nono
Darko.
C'est trop bien.
Alors, Multizoubi, est-ce qu'il y a-t-il un épisode de prévu sur la communauté indienne en France?
Tout à fait. Trop, ouais,
tout à fait. Ouais, j'aimerais beaucoup,
pour
j'adore.
Le coup, ouais, c'est vrai qu'en plus, c'est vraiment, s'il y a des gens qui sont absents des représentations, je tiens juste à dire un truc d'ailleurs sur ça. Je sais pas si vous avez vu Le Grand Bain.
Oh
si tu l'as vu, c'était abusé.
Ah
hein.
Ouais.
Oh là là. Donc, dans Le Grand Bain. Peut-être que vous l'avez pas remarqué, mais parmi toutes les personnes en fait qui font la compétition pour faire la natation synchronisée, il y a un homme qui est vraisemblablement d'origine indienne, pakistanaise,
ouais,
du sous-continent indien, qui ne parle quasiment pas. Et quand il parle, je sais pas s'il parle en tamoul, en tout cas dans une langue, mais genre il parle dans une langue que nous spectateurs on comprend pas, et tout le monde fait comme s'il le comprenait.
C'est horrible.
Mais c'est horrible. Franchement, c'est abusé.
Parce qu'en fait, ils font croire que c'est leur pote et que c'est l'un des leurs, alors qu'en fait...
On sait rien de lui, on comprend pas ce qu'il dit. Et en plus, à un moment donné, tu les vois s'entraîner pour aller pour faire pareil la compétition, je sais plus dans quel pays scandinave. Et tous, ils s'entraînent chez eux, tu vois, dans leur famille, tu vois leur contexte familial et tout. Et lui, tellement ils lui ont pas fait de passer, il s'entraîne à la station de bus.
Oh,
non,
ouais,
mais vraiment, vrai. Mais c'était abusé, quoi.
Et donc, c'est un peu ça, le tokenisme aussi.
Oui, c'est ça.
Le fait de c'est vraiment un token,
ouais,
mais dans, comment on a dit
un
ça
alibi,
en français
hein. un alibi. Ouais. Ouais.
C'est-à-dire qu'il sert là de caution multiculturelle, enfin je sais pas, c'est genre le mec pas blanc. Et,
il serait pas là.
Il est complètement invisible, c'est-à-dire qu'il parle pas, il a aucune histoire.
Ouais, pas de passé, pas de famille.
Genre ils sont tous bilingues tamoul, quoi. Dans l'histoire. Enfin bon, alors que tu sais que c'est pas possible.
Mais
enfin,
c'est
bon,
clair.
Bref, voilà. C'est une question de Arca91. Que pensez-vous de la gestion de l'information par les médias de la Cannes 2019 et des festivités qui sont liées, ainsi que de la récupération de cet événement par l'extrême droite? Alors le match, la finale,
ouais.
C'est...
Moi, ce qui m'a fait rigoler, c'est je sais plus qui de l'extrême droite là, qui a dit... quand il y avait le match Algérie-Nigéria,
ah ouais.
Qu'il était pour le Nigeria. Mais le gars, il est tellement raciste, tellement anti-algérien, qu'il disait oui, non, j'espère que le Nigeria va gagner parce que sinon les Algériens...
Ou la personne qui a dit que le 14 juillet avait été kidnappé par les Algériens.
C'est Brigitte Bardot, je crois.
Ah oui,
ah, c'est trop drôle. Bah, bon. C'est dommage en fait qu'on parle de la CAN que de cette manière-là, quoi. Parce que pour le coup, je sais pas, il y a plein de gens qui sont d'ascendance africaine en France et qui étaient intéressés par les compétitions de leur pays d'origine. Mm-hmm. Et du coup, c'est dommage que le seul prisme de traitement de cette actualité,
ce soit le racisme.
Ouais, c'est ça. Et puis voilà, les éventuels débordements, etc., quoi.
Mais bon. C'est une célébration
exactement.
Qui va être chouette.
C'est clair. Surtout si le Sénégal gagne.
Ouais. Alors, il y a une question très large qui s'appelle comment gérer le racisme ordinaire? Je suis dans un labo de recherche exclusivement blanc. Je me prends des remarques de racisme gentil parce que je suis la seule arabe, mais je ne sais pas trop comment réagir. C'est une question de Tea on Me. Ouais, c'est difficile, hein.
Ouais, c'est pas évident parce que le but c'est pas non plus de se mettre en danger.
Non, pas
donc,
du tout. Il faut que tu gardes ton taf.
Passer, c'est ça. Voilà. Il y a des questions de garder son taf, les questions de se pas retrouver dans un contexte où en fait les gens se mettent dans une position hostile. Donc je pense qu'il faut le faire. Faut trouver un moyen en fait de le faire remarquer, peut-être identifier éventuellement parmi les collègues d'éventuels alliés qui puissent, à la fois, remarquer ce qui se produit et peut-être vous appuyer si vous avez envie de protester.
Ouais.
Ou sinon, simplement reproduire. Je ne sais pas quelles sont les remarques qu'on vous fait, mais vous les reproduisez en répondant de la même manière à des personnes par rapport à leur région d'origine, c'est des régions françaises, etc., pour souligner un petit peu le ridicule de certaines remarques, quoi.
Moi, je pense que ce qui est important dans le taf, c'est que vous soyez jugé en fonction de vos compétences et que votre avancement, il soit fonction de vos... De comment vous travaillez, en fait. Parce que le taf, c'est ça. En fait, c'est que c'est censé être la méritocratie, c'est-à-dire que donc vous travaillez bien et on vous donne des responsabilités et vous progressez dans votre échelle salariale et dans votre et si c'est pas le cas et si le racisme freine votre progression et dans votre travail, c'est là que il faut que vous puissiez vous défendre et de pouvoir obtenir ce qui vous est dû. Et je vous conseille du coup l'écoute de notre épisode sur comment survivre au taf.
Ouais, exactement.
Avec Marie da Silva de la saison 1. Je pense que en plus Marie da Silva, c'est quelqu'un qui est coach, donc elle peut soutenir individuellement des personnes qui sont dans ces situations-là. Donc je sais pas si c'est dans vos cordes ou dans vos moyens, mais c'est bien aussi de te faire aider quand on est dans ces situations-là aussi.
D'ailleurs, il y a quelqu'un qui qui s'appelle Corbac, qui conseille justement Napili Caillot sur Twitter voilà. pour le racisme au travail. Donc c'est voilà, effectivement, on est d'accord là-dessus.
Alors il y a une question de décolonisons-nous, et j'aime beaucoup ce compte sur Insta, donc salut.
Et merci de nous relayer à chaque fois. Merci beaucoup.
Est-ce que les blagues perpétuant le racisme ordinaire provenant de personnes publiques connues pour être gage de diversité, d'ouverture ou de pro-multiculture, entre guillemets, doivent être dénoncées? Ou doit-on tolérer parce que c'est se tirer une balle dans le pied étant identifié du même camp?
Ça, c'est une très bonne question.
Il nous reste que 3 minutes, donc on va rester, là-dessus. Moi,
Bah disons que c'est compliqué. Est-ce que parce que des fois il y a des vannes qu'on peut se faire entre personnes de la même origine ou entre groupes minorés qui sont pas malveillantes. Et la question c'est toujours est-ce qu'on rit de soi, est-ce qu'on s'humilie ou est-ce qu'on rit avec une forme de complicité où on est dans un rapport dynamique d'égalité quoi. Donc est-ce qu'on participe finalement à faire en sorte que les majoritaires continuent à se moquer de nous et à nous humilier d'une certaine manière, en tout cas à nous minorer, ou est-ce qu'on est dans quelque chose où au contraire on reprend un stigmate, on le retourne et on en fait quelque chose de fort. Donc ça c'est là-dessus qu'on doit juger quoi.
Ouais, moi je trouve qu'il y a beaucoup il y a un vrai exercice d'équilibre là, parce que en même temps on ne lave pas le linge sale en public parce qu'on a beaucoup trop de choses à faire pour perdre notre temps à venir faire ça, mais en même temps il y a des choses qui ne peuvent pas être tolérées même si elles proviennent de personnes du même bord entre guillemets, c'est-à-dire mais quel bord en fait, c'est la question, c'est qu'on n'est plus du même bord si t'es en train de me mettre la tête sous l'eau, on n'est plus du tout du même bord. Donc après il y a une question de moyens et donc je pense que ce truc de l'humour, comment faire la différence entre l'autodérision et
l'aliénation quoi,
et la moquerie. Enfin c'est des questions qu'on nous a posées aussi par courriel. C'est hyper compliqué parce que tout dépend de qui le dit, de comment on le dit, de tout est fonction du contexte finalement.
Et de qui rit aussi, qui s'appelle
quoi.
Et de
qui rit, de qu'est-ce que ça perpétue comme image. Donc, c'est vrai que c'est très difficile de répondre de manière générale. Il y a des choses qui ont été dénoncées, par exemple, quand Gad Elmaleh et Kev Adams ont fait ce sketch sur les Chinois, on a dénoncé ça, les communautés asiatiques ont dénoncé ça. Après, il y a eu des personnes qui nous disent « moi j'adore, je trouve ça trop drôle », tout ça, parmi les Asiatiques, donc ça existe, hein, et que ceux-là, on ne va pas les écouter. Enfin, en tout cas, moi, je ne les écoute pas, j'écoute ceux qui me disent « je suis blessée, j'ai envie que ça change, j'ai envie qu'on arrête de se foutre de ma gueule ». Je pense que c'était important d'en parler. Maintenant, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui change? Je ne sais pas.
Oui, parce qu'en plus, là, pour le coup, Gad Elmaleh et Kev Adams s'en prenaient à des groupes qui étaient des groupes exogènes par rapport à eux, donc ils n'avaient même pas de légitimité. C'est même pas comme s'ils avaient repris des choses qui étaient existantes pour les détourner. Là, c'était vraiment, c'était pas leurs amis. Enfin, je veux dire, c'est comme si nous on se vanne toutes les deux, on est copines, on se connaît, donc il y a un passif. Donc je peux me permettre de le faire. Si tout d'un coup personne me connaît.
Ça dépend quelle vanne.
Non, mais bien sûr. En tout cas, c'est en complicité et c'est
bien
en accord,
sûr.
Tu vois.
Ouais, ouais.
Mais si tout d'un coup je surgis nulle part, je vais à la télé, je fais un sketch sur les asiatiques, mes sorties de nuit, les gens vont se dire.
Parce que j'ai une copine chinoise.
Ouais, c'est ça. Bah oui, mais Nathan, ma copine, elle m'a dit que ça allait. Donc voilà, ça n'aura aucun sens, quoi.
Ouais. Bon, une dernière question. Alors, une dernière question de Magic Berkou. Un épisode sur les invisibles, genre les métisses dont on n'identifie pas l'appartenance raciale, avec des soucis du style on croit que ta mère, c'est ta nounou, ou ton nom ne correspond pas à ta tête, ce serait envisageable pour vous?
Bah oui, c'est aussi un sujet, mais c'est intéressant justement la question du nom, parce que on voit par exemple que les personnes qui sont métissés et dont les origines ne sont pas visibles, enfin on voit que dans une même fratrie les traitements peuvent être complètement différents en fonction du prénom quoi. Je pense typiquement aux personnes qui sont d'origine maghrébine, selon que le choix des parents du prénom, enfin le destin de la personne peut être complètement différent. Mais si elle a l'air blanche et qu'elle a un prénom maghrébin, tout d'un coup c'est une autre perception, donc du coup c'est intéressant de voir aussi encore une fois comment la stigmatisation peut intervenir au-delà de l'apparence physique, mais vraiment sur ce qu'on associe à un prénom. Donc oui, c'est un sujet intéressant. Ouais.
Ouais. Et que d'une manière générale, peut-être les thèmes les thèmes de Kif Taras qu'on privilégie, c'est des personnes ou des sujets invisibles ailleurs. Donc merci pour toutes vos suggestions d'épisodes, pour les thèmes, tous vos messages qui nous font vraiment plaisir tout au long de l'année. Je pense qu'on va terminer ici.
Oui, merci à tous. Il y a encore plein de questions qui arrivent, mais de toutes les façons, c'est pas le dernier live. On aura d'autres occasions. Merci de nous nourrir, merci de nous soutenir, nous témoigner à chaque fois de vos retours, à chaque épisode, parce que c'est vraiment hyper encourageant. Ça nous donne des idées, ça nous donne envie de continuer. Ça donne vraiment du sens à ce qu'on a fait, parce qu'on s'est un peu lancé sans trop savoir à qui on parlerait. On se rend compte que le nombre de personnes à qui on parle est beaucoup plus étendu que ce qu'on pouvait imaginer. Et c'est vraiment, vraiment chouette. Merci d'avoir été au rendez-vous pour cette première,
ouais,
ce premier rendez-vous
beaucoup.
En direct.
Ouais, j'espère qu'on fera plus de Twitch, hein, par nos copains derrière les consoles et tout. Et oui, alors la date pour la saison 2, c'est le 5 septembre, c'est ça ? Voilà, le 5 septembre. C'est une phrase pour toi, ça ?
Attends,
c'est de pitbull anti-masculin, on va pas le dire. J'adore. Merci d'être là. Merci beaucoup.
Merci.
De nous écrire.
Ça, c'est notre vol de mort, tu vois. On dit jamais son nom.
Et qu'on ne nomme pas. Merci d'avoir été là pour ce Kif Taras questions et réponses. Et j'espère à bientôt. Bel été à vous. Plein de lectures. Plein de choses pour l'esprit. Et
merci, grâce.
Et du repos. Ouais. Merci, Rukaya.
À bientôt. Bon été.
Binge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.